Yeah! Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel. Fatigué. J'ai une pêche d'enfer.
Ah, t'as beaucoup plus la forme qu'il y a 15 jours, toi, ça se voit.
Ouais, plus de café.
Parce qu'il y a 15 jours, t'étais d'équerre. Hein. Enfin.
Black et d'équerre.
Ça fait... Ouh, le café te donne de l'humour.
Ben non, c'est surtout que je suis en plein travaux.
Bon, eh bien, Black et d'équerre. Quoi, c'est toujours pas fini en 15 jours?
J'espère passer Noël dans autre chose qu'un chantier.
Ouh, ce sera la fête.
Ce sera trop whiz. Allez.
Allez, un programme encore moult chargé. Enfin, coucou, on est un peu light parce qu'on a dû reporter des trucs pour les trucs qu'on fera dans 15 jours. Nous allons attaquer de suite, hein, sans aucune forme de transition, avec notre presque neuf, en parlant du. Omni Visibilis de Mathieu Bonhomme et Lewis Trondheim.
Tintin. Et en fait, on ne présente pas tout ce qu'on va dire aujourd'hui
ou... Oh, si tu veux. Après, on parlera de Baron Samedi, de Last Day of American Crime, des Geeks numéro 2, de Ikigami tome 3, de Walking Dead 3.
Et donc voilà, donc nous étions sur Omni Visibilis.
Qui est chez Dupuis et qui coûte la bagatelle de 19 euros. Oh, un chiffre rond, j'aime les chiffres ronds. Ils auraient pu le faire à 18,95€.
Mais oui, du coup, ils perdaient 5 centimes.
Effectivement. Que nous compte donc ce magnifique Omni Visibilis
L'histoire d'un vrai winner.
Un vrai winner, ouais.
Un vrai winner.
Je dirais un mec, en fait, non, c'est ça que c'est pire, c'est un mec normal, en fait.
Bah oui, l'histoire d'un vrai winner.
Ouais.
Donc, qui a bien réussi sa vie, qui a tout pour que ça fonctionne, qui est un petit peu... Qui est un petit peu des tocs quand même, hein, parce que le truc des toilettes, ça l'a...
Ouais, il est un petit peu bactériophobe.
Ouais, ou alors, c'est qu'il n'arrive pas à pisser, enfin, c'est au choix.
Ouais. Bref, un mec normal, qui a un boulot qui va bien, qui a toutes les choses qui vont bien, qui a une petite copine, ça se passe pas trop mal. Enfin. Voilà, et...
Et il va lui arriver quelque chose.
Heureusement pour nous.
Parce que sinon, on serait fait chier quand même au bout de presque 150 pages si c'était juste sa vie. Hein.
Oui.
Et il va lui arriver un truc assez particulier, c'est que tout le monde, mais tout le monde sur Terre, va voir par ses yeux et va entendre ce qu'il pense.
Non, entendre ce qu'il entend.
Entendre ce qu'il entend, oui, mais entendre ce qu'il pense aussi.
Non, ils n'entendent pas ce qu'il pense.
Ah si.
Ah si. J'ai eu un doute.
Ah si, parce que quand son copain le recroise à un moment, il lui dit comment ça je postillonne?
Ah oui, il entend ce qu'il pense aussi, effectivement.
J'ai jamais dit que tu postillonnais. Bah ouais, mais tu mets ta main comme ça pour faire quoi? Faire du breakdance en vitesse super lente? Yo, man!
Yo, 1-1-1!
Le unplugged robot. Hop,
Bref.
Et forcément, si tout le monde entend ce que tu penses, si tout le monde entend ce que tu entends, si tout le monde voit ce que tu vois...
Sur Terre,
tu deviens vachement intéressant.
Un peu le centre de l'attention. Et s'ensuit pour ce héros, Hervé, il me semble, c'est son prénom, une course-poursuite infernale pour tenter d'échapper à tous les gens qui sont intéressés par lui. Entre ceux qui veulent faire des révélations pour dire à leur copine qu'en fait ils regrettent, ceux qui veulent faire passer des messages publicitaires par son intermédiaire, sa copine qui l'a largué en début de tome, qui veut l'utiliser pour faire du casting sauvage. Heureusement, il a deux potes. Mais des vrais. Hein.
Ouais.
Des potes, c'est des vrais. Qui essaye de l'aider et de le sortir de cette situation, car en gros, il est obligé de se balader avec un sac sur la tête et les oreilles bouchées pour que les gens ne sachent pas où il va. Et on va suivre toutes ces aventures. Bien, on a un peu résumé ce que ça racontait, nous allons maintenant pouvoir en dire ce que nous en avons pensé.
L'idée, moi, j'ai trouvé vraiment originale.
L'idée est très sympa.
Ça fait un peu penser dans la tête de John Malkovich, quoi. C'est...
Ouais.
Tout le monde rentre dans sa tête et finalement, le gars, ça devient...
Ouais, c'est John Malkovich à l'échelle, plus 1000.
Ouais, mais là, c'est...
Oui. Alors,
c'est drôle. Il y a des moments où je trouvais ça quand même assez drôle.
Est-ce que tu t'attendais à ce genre de choses de la part de Lewis Trondheim?
Alors, étant donné que je ne suis pas un grand connaisseur de Lewis Trondheim,
ouais. En fait, tu ne t'attendais à rien.
Je ne m'attendais pas à grand-chose. Là, je suis... Voilà, je suis...
Et ben moi, je suis assez surpris. Lewis Trondheim, même s'il a fait des gros trucs, a plutôt tendance à travailler avec des dessinateurs à un style beaucoup plus humoristique, moins réaliste. Lewis Trondheim, tu vas penser au truc qu'il dessine lui-même, hein, mais il y a aussi des donjons, il y a plein de séries qu'il a pu scénariser qui ont toujours. Enfin, je me souviens pas avoir vu un truc de Lewis Trondheim avec un style réaliste. Je veux dire, il y a une CBD qui est dessinée par Larsenet,
Boulet.
Oui.
Si, je me rappelle ce que disait Boulet aussi dans un de ses trucs.
Oui.
Que le temps qu'il monte sur la montagne, qu'il redescende, il aura pondu 3 bouquins.
Oui, c'est aussi un peu dans une de ses notes, dans un de ses carnets. Oui, mais c'est Lewis Trondheim. Et donc là, il nous fait une histoire assez longue, je trouve, et qui change au niveau du style. Alors, on est dans l'humour, c'est pas mal mené, et c'est surtout superbement dessiné par un Mathieu Bonhomme que j'adore.
Qui est au top de sa forme.
Mathieu Bonhomme, donc, dont on avait déjà parlé pour L'Esprit perdu, qui est l'intégrale de la série Messire Guillaume, toujours chez Dupuis, et qui là a choisi un style un peu plus, on va dire, à l'ancienne, avec un ancrage plus net, c'est-à-dire qu'on n'a pas les crayonnés comme on avait dans Messire Guillaume, et surtout un style de colorisation assez particulier, c'est une colorisation monochrome avec un bleu, qui va servir à vraiment faire tout ce qui est relief, mise en avant des choses, etc. Graphiquement, c'est super dynamique, c'est super bien mené. Il arrive très très bien à gérer cette course-poursuite de ce héros, à jouer sur les plans subjectifs qui sont très importants dans cette histoire, hein, vu que la vue du personnage est pas mal, et en plus, de temps en temps, à partir en vrille, comme vers la fin du tome, où on commence à faire une sorte d'alu bizarre, je vais pas en révéler plus, et où il y a un travail graphique super intéressant. Oui, oui.
C'est bizarre, oui, c'est le mot. C'est bizarre, voilà.
Voilà, mais tu viens, t'as un ancrage beaucoup plus brouillon, des crayonnés, des coups très plus chaotiques. Bref, c'est très très sympathique. Toutefois, j'ai trouvé l'exercice sympathique, mais un peu vain.
Pour toi aussi, il manquerait une explication.
Pas une explication. Pas forcément une explication. On a vu la semaine dernière qu'on peut ne pas forcément se contenter d'une explication. Je dirais que ce qui manque, c'est pas une explication, c'est une raison. Les personnages n'évoluent pas forcément. Au début de l'histoire, il est un peu le même qu'à la fin. Alors, il arrive un nouveau truc, entre guillemets, mais ça, on va pas révéler. Mais il est un peu le même. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a rien qui change. On a, en gros, une sorte de bout de vie d'un personnage à qui arrive un truc exceptionnel. Et c'est tout. Il n'y a pas de morale, pas de pensée profonde, rien du tout. J'ai juste trouvé que c'était partir sur une idée marrante, l'exploiter, mais sans savoir quoi en faire.
Ouais.
Vas-y, fais des petites chansons pour passer le temps pendant que tu réfléchis. Si tu veux, je te fais la petite musique.
La musique d'ascenseur.
T'as vu, j'improvise vachement bien la musique d'ascenseur. Donc vas-y, maintenant tu peux parler. Je pense que tu as eu le temps de réfléchir.
ouais. Non, moi, ce qui me manque, c'est plutôt l'explication.
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Pourquoi?
Ouais, ça peut rejoindre le pourquoi. C'est ce qui manque dans l'histoire, parce que bon, voilà, c'est un one shot, moi je trouve ça super intéressant, c'est très très bien mené, mais il manque une petite explication, quoi. Pourquoi? Ouais, merde, je l'ai dit pourquoi aussi, voilà, une petite, enfin moi j'aurais mis
ouais, mais
une raison.
Pense, ouais, mais je pense que n'importe quelle raison qu'ils auraient pu trouver aurait pas collé avec ce côté du quotidien du personnage, parce qu'en gros c'est ça, c'est un personnage du quotidien, il lui arrive des choses du quotidien un peu déformées, un peu modifiées. Il y a, en dehors de ce qui lui arrive, il n'y a aucune science-fiction dans cette histoire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de... Enfin, le monde, c'est le nôtre. C'est... Ouais, enfin bon, j'étais un petit peu déçu par la fin. Enfin, pas par la fin. L'histoire m'a bien plu, mais je ne vois pas de raison, en fait. À part raconter ce truc sympa, quelques gags marrants, quelques scènes intéressantes. Mais voilà, exercice un peu vain. Bon,
peut-être que la vérité est ailleurs. Peut-être que ouais. Tu vois, c'est dans les dernières pages là où le monde entier réalise qu'il se passait un truc. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans. et qu'on n'a pas compris.
Ouais, ouais, on verra peut-être dans un Omnivisibilis
2, de...
le retour de la vengeance de l'explication.
Ou alors Omnivisibilis a... pour les nuls.
Ouais, ça m'étonnerait.
Tout ce que vous n'avez pas compris dans le bouquin, on vous le réexplique.
Voilà. Enfin, connaissant Lewis Trondheim, il est capable de nous faire un carnet de feuilles blanches avec juste écrit à la fin « Voilà ». Nous arrivons à notre histoire suivante.
Baron
notre
Samedi.
Bande dessinée suivante. Donc, Baron Samedi.
De Doug Baker.
C'est très étrange.
L'enfant de la mort.
C'est très étrange et ça porte bien son nom. Ça coûte 17 euros.
Ouais. Alors là, on est donc sur un serial killer qui se fait appeler le Baron Samedi.
On sait pourquoi il est serial killer, parce que ça commence par un petit peu ses origines. C'est pour se venger de la France qui, en gros, a fait tuer sa famille dans son village indépendant d'Amérique du Sud pour une question de, par des mercenaires pour récupérer une mine d'uranium ou je ne sais quoi.
D'uranium, c'est ça. Voilà. Avec un personnage presque historique qui est Bob Denard. Bob Bernard.
Bob Bernard, oui. Oh, zut. Bref, et nous allons suivre ce gars qui devient le Baron Samedi pour tuer des gens, des représentants de la France. Ça se passe dans les années 50.
50, ouais. Mmh. Bah, c'est la France du général de Gaulle.
Et voilà, à part suivre ce tueur en série.
On va découvrir, on va dire, son plan.
Son origine d'abord. Comment
il en est arrivé déjà à devenir le Baron Samedi, et puis ensuite bien la réalisation de son plan avec son acolyte, Brigitte.
Oui.
D'un point de vue graphique, qu'est-ce que tu en as pensé, toi ?
Alors, d'un point de vue graphique, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. On part sur des images couleurs assez jolies, assez sympathiques. Et dès qu'il en est sorti de cette colorisation, qui m'a un peu fait penser les premières pages au niveau de la colorisation de ce qu'on a dans Dread Bullets.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire ? C'est Alexandra Mulville, je crois, un truc comme ça. Donc, des couleurs d'Andred Bullet. Et juste après, on arrive sur un noir et blanc, niveau de gris, on va dire, assez tranché, et rouge, beaucoup de rouge. Il envoie des tonnes de sang en rouge, du jaune aussi pour montrer la crasse, les trucs chimiques, etc. Et puis les pensées des... Enfin, les didascalies. D'un point de vue graphique, je trouvais ça intéressant. C'est un style... on a l'impression que c'est un dessinateur brouillon qui s'essaye à des lignes claires. Quand tu regardes la couverture, par exemple, tu as des traits beaucoup plus... un peu crabe, tu vois, un peu... un peu à la va-vite, enfin, des crayonnés bien visibles. Et là, on a l'impression qu'il se force quelque part à faire de lignes claires, qui donne un petit côté parfois un petit peu statique au personnage, mais un côté très élégant. Même dans les massacres.
Ce qui est moi, je le trouve assez charismatique quand même, le Baron Samedi.
Oui, assez. Ouais.
Bon, par contre, il est aussi assez crade, quoi. C'est.
Ouais.
C'est pas à mettre entre toutes les mains, quand même.
Toi, graphiquement, donc.
Graphiquement.
Point de vue.
Ben, graphiquement, j'ai trouvé que ça collait très très bien à l'époque.
Ouais.
Tu as un petit peu ce côté, enfin, ouais, dans mon idée, hein, un peu léché qu'on pouvait trouver dans les années 60, quoi. Mm-hmm. Donc, ouais, c'était, moi, ça, voilà, ça s'est resté. Un bon truc un peu à l'ancienne à des moments sur les fumées, sur... ouais, voilà, tu restes comme tu le disais, quoi, dans la ligne claire.
Et par contre, voilà, maintenant le scénario. Qu'as-tu pensé de ce scénario ?
Pourquoi c'est moi qui parle ?
Non, parce que moi, j'ai un point de vue très tranché, je pense, dessus.
Alors, le scénario, j'ai trouvé ça un peu barré, un peu extrême quand même, dans beaucoup de rapports avec la société. Mais ce qui s'explique en fait par, je pense, le vécu du dessinateur et scénariste, qui est le même. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Dérangeant, mais intéressant.
Ah ouais, limite malsain en fait.
Il y a des passages un peu malsains.
En gros, on a du gore, on a du sang, on a de la violence. Et au milieu de tout ça, les femmes sont toujours représentées de façon très érotique.
Des
pin-up. Ouais, mais un côté très érotique chez les femmes. Il y a un côté qui ressemble, enfin, malsain, la gestion, enfin, au niveau de l'histoire sur ces enfants qui sont manipulés par le Baron Samedi. C'est très dur. J'ai eu du mal. Hein. J'ai trouvé le truc, on va dire, intéressant, mais j'ai pas forcément accroché. Voilà. Mais côté malsain, c'est ça. Il arrête pas de foutre les bonnes femmes en sous-vêtements. Avec toutes leurs portes-jartelles, il fait une fixation dessus d'ailleurs, je pense, sur les portes-jartelles. Et ouais, j'ai eu du mal à ce niveau-là. Et un autre truc qui m'a gêné, c'est les dialogues, mais ils sont désuets. Alors je sais pas si c'est volontaire, parce que bon, il a quand même eu de l'aide pour la traduction de bons auteurs français, mais j'ai trouvé le. Enfin, ça m'a perturbé. Et ensuite, l'autre truc qui m'a perturbé, c'est que j'arrive pas à savoir si ça va suivre ou pas.
Je pense que ça peut l'être. Je pense que suivant le succès, peut-être qu'on aura la suite. Je sais pas si elle est déjà sortie aux États-Unis une suite ou pas.
Je ne sais pas, mais je crois que c'est sorti directement en France, en fait.
Non.
Non?
Non. Bon, en même temps, le mec il vit à Versailles, hein, donc
Oui, bon, et au niveau
dans
du.
l'Indiana.
Oui, dans l'Indiana, Versailles, dans l'Indiana, voilà. Et donc, toi, ce côté malsain, tout ça, t'as pas trouvé un peu
Ah
perturbant?
si, non, je peux pas te dire non plus que tu le lis en se disant ça, c'est super, tout se passe bien. Non, il y a un petit côté malsain, mais je trouvais ça intéressant.
On parlait, tu as fait allusion tout à l'heure au passé de l'auteur. Quand je suis arrivé à la fin, il y avait la petite biographie de l'auteur et j'ai fait, ah ouais, effectivement. En gros, ce monsieur, bah, en fait, a fait de la prison. Pour quelle raison est-ce que c'est dit? Je ne sais plus.
Non, il est parti du mauvais pied
Oui,
et c'est
voilà.
en prison qu'il a commencé à dessiner.
Voilà, mais apparemment, il a été en prison longtemps. Hein. Donc, il n'a pas dû faire un
Non,
truc.
libéré après quelques mois de détention.
Ah, quelques mois? Ah, je pensais qu'il avait fait
Ouais, il
plus.
profite d'un plan de réinsertion sociale et intègre la faculté de Perdue pour étudier la
D'accord.
littérature française.
Bon, il est parti du mauvais pied, mais je sais pas, enfin disons que c'est peut-être la lecture de sa BD qui me donnait l'impression qu'il était un peu psychopathe dans sa tête, ce qui est peut-être pas le cas, hein. Mais oui, tu penses qu'il est un peu psychopathe dans sa tête?
Je pense quand même qu'il est un peu secoué, le gars. Hein. Là, je peux pas le sauver sur ce point de vue-là. Je pense quand même qu'il a des petits soucis. Hein.
Tu verrais autant, c'est le genre de mec qu'on va. Si on le rencontre, il est super cool, avenant, sympathique,
Ah,
comme Hannibal Lecter.
si, voilà. Non, enfin, si je vais aux States, je pense que je vais peut-être pas aller visiter l'Indiana. Tu vois, c'est peut-être pas l'État qui m'attire le plus.
Ouais.
Non, ça a l'air un peu pas coulin quand même, l'Indiana. Désolé, hein, je.
Bon, bref, une bande dessinée
Étrange.
étrange, dérangeante. Faut vraiment aimer ce genre de truc. Un petit côté voilà underground qui sur lequel j'ai pas forcément accroché à 100%. Mais nous allons passer à notre dernière presque nouveauté de cette quinzaine.
Et là, c'est de la bombe.
Nous allons parler de The Last Days of American Crime. Tome 2 de Rick Remender et Greg Tokini.
Au prix de 14,95 €. Alors
Aux éditions Emmanuel Proust.
une couverture qui déchire toujours autant.
Alex Malev, je t'aime.
C'est beau quand tu fais une déclaration
Oui,
d'amour.
je sais.
Vraiment des couvertures qui sont abominablement belles.
On aurait presque envie que tout soit dessiné pareil dedans.
C'est ça.
Mais d'un autre côté, on peut pas dire que ce soit pas bien dessiné dedans, c'est
Non,
très bien aussi.
c'est très bien dessiné dedans aussi. On retrouve un peu le style de Hundred Bullets aussi, je trouve, à certains moments.
Ah ouais, non, je trouve que ça joue beaucoup plus sur les aplats de couleurs que sur le noir et blanc tranché d'Hundred Bullets graphiquement.
Quand il y a la scène de fight dans l'hôtel, et moi ça m'a vraiment fait penser à du Hundred Bullets, dans la violence que tu peux ressentir, quoi. Bon, après. Donc on continue dans notre histoire du dernier méga casse du siècle.
Nous avons notre équipe qui a été recrutée au tome précédent.
Ouais. Malheureusement, visiblement, ils sont pas les seuls sur le coup.
Oui, en fait, il y a plutôt des gens qui ont vu qu'ils étaient sur un coup et qui aimeraient bien récupérer leur part du gâteau.
Ouais, en fait, voilà, tout le monde veut faire aussi partie du dernier casse du siècle.
Et donc, bah, nos héros essayent de se démerder pour que personne ne découvre leur plan, pour leur piquer l'idée. Et ça part un peu en vrille, quoi.
C'est pas gagné.
C'est pas gagné. Donc, c'était la bonne continuité de l'histoire précédente, si on avait bien aimé. C'est un petit peu plus violent.
Oui.
Bon, la scène au début avec les chefs des mafieux, la bonne femme et le gars qui veut le faire parler, elle est dure, hein.
J'ai pas trouvé, moi. Je trouve ça assez zen. Si tu l'as lu après Baron Samedi, très honnêtement, c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé ça très zen comme truc.
D'accord. En fait, Baron Samedi l'a transformé en psychopathe.
Tout va bien. Non, non, ouais, c'est quand même assez violent, mais beaucoup moins que Baron Samedi.
Oui, des méchants très méchants quand même. Oui, et puis on a plus l'impression d'être dans la fiction du fait que ce soit dans un monde un peu parallèle, un peu utopique, uchronique.
Par contre, un gros défaut que je trouve quand même pour la série, c'est que c'est cher pour.
Ouais, c'est très dilué, il n'y a pas beaucoup de pages.
Y a pas beaucoup de pages. Et 15 euros pour aussi peu de pages. Alors l'édition est classe, hein, c'est vrai que c'est joli, mais.
Oui, bah à la fin, en fait, pour justifier un peu le prix, ils font quelque chose de très bien, je trouve. C'est des bonus en fin de bouquin
Oui,
qui
mais.
sont très très intéressants.
Ils sont très intéressants, mais ça fait pas tout.
Ouais, c'est-à-dire que si tu veux lire de la BD pour dire de la BD, ça manque un peu, quoi.
Bon, heureusement, il y aura que 3 tomes, mais bon, ça fait une intégration. Enfin, pour finalement, au final, pour 45 euros,
Oui,
ça fera cher la page quand même,
ouais,
hein.
ça fait cher la page. Heureusement, c'est vrai que pour sauver un peu ça, l'édition est jolie. Il y a un vrai travail d'éditeur derrière, mais c'est vrai qu'il y a ce défaut. Toutefois, bon, l'histoire avance bien, on en apprend un peu plus. J'ai trouvé justement que des points que je parlais dans le tome précédent, où on ne comprenait pas exactement tout le plan, il fallait lire la petite interview du scénariste à la fin pour tout comprendre. Je trouve que c'était un peu plus clair sur cet épisode-là. Même si ça reste à mon goût encore un peu brouillon, en fait,
Bah, tu
scénaristiquement.
sais, mais en fait, on sait toujours pas vraiment où on va aller.
Ouais, et puis dans quel sens, où situe cette scène, qui sont les personnages aussi, parce qu'il y a un style graphique qui fait que il y a beaucoup de personnages qui passent pas souvent, et en dehors des personnages principaux, j'ai eu tendance à me perdre un peu, à mélanger, à plus savoir trop qui était qui. Il me fallait un temps pour me remettre, parce qu'en gros, on a l'impression d'avoir juste une bande d'enflure, plusieurs bandes d'enflure, et on a du mal un petit peu à les différencier, je trouve.
Ben, même les meufs, hein, si tu prends enfin l'héroïne, si tu enlèves ses tatouages, elle est dure à reconnaître vis-à-vis des autres meufs.
Oui. Bon, ça reste comme une BD résolument adulte. Étonnamment, graphiquement, je dirais plus adulte que Baron Samedi.
C'est pas le même style graphique.
Par contre, moralement, ça passe un peu mieux. Ça passe un peu mieux.
Bon, ok.
Quoi?
Non, mais ça va, tu as fait ton choix.
Ouais, j'ai fait mon choix. Bon, bref, tu le recommandes
Non, déjà, ça reste
quoi
vraiment
qu'il
dans
en
la
soit.
continuité de ce qu'on avait fait dans le premier tome et c'est vraiment intéressant. Maintenant, il faudra que le dénouement soit à la hauteur pour que ça devienne un intégral intéressant à
Un
voir.
incontournable. Voilà. Après, c'est une BD qui marche très très bien, apparemment. Le dessin a bien cartonné. Tu l'as acheté assez tard, le tome 2. Tu as eu du bol de le trouver parce qu'il a été en rupture chez l'éditeur pendant un moment. D'ailleurs, c'était le dernier qui avait le libraire, hein, si je ne m'abuse.
C'est ce que tu m'as raconté
Voilà, vu que c'est moi qui suis allé te l'acheter.
de notre librairie favorite. Faisons de la pub.
La BDRI, la librairie, qu'elle est bien. Et
Aix-en-Provence.
à Aix-en-Provence.
Je viens de le dire.
Ouais, je sais, mais tu es un peu chuchoté, tu vois. C'est pour que les gens soient sûrs de ne pas la rater.
Mais c'est
Bref,
subliminal.
subliminal, hein, d'accord, la pub subliminale. Bref, j'ai encore dit bref, mais c'est pas grave. Un truc à conseiller. Et nous passons maintenant au rattrapage. On attaque de suite avec les geeks, tome 2. Nous avons trouvé dans le doute reboot.
J'allais faire, c'était mon
Non mais
test.
je te vois qui bouge les doigts, je me
J'allais
dis.
faire, tu vois, dans le doute, reboot.
D'accord. Alors vas-y, fais-le.
Je viens de le faire.
Ah, de suite. Donc le tome 2 de cette bande dessinée. Je dirais toujours aussi sympathique. Donc, on en a parlé il y a déjà deux émissions. Donc, c'est de la BD de gag, de la BD de gag à thème. Là, le thème, c'est les geeks, dans lesquels, je dirais presque malheureusement, je me reconnais un peu trop.
C'est lourd, c'est douloureux presque.
Ouais. Alors, disons que j'avais quelques enfin, reproches, entre guillemets, sur le premier tome, qui était que on avait du mal à savoir quel personnage correspondait à quel archétype. Et qu'on avait l'impression d'avoir un peu les gags faciles, les premiers, les plus évidents, vu que c'était un premier tome. Est-ce que tu penses qu'il y a eu des évolutions concernant tout ça, dans ce tome 2?
Bah disons que je crois qu'en fait chaque domaine de geek est
Un peu
un peu plus clair.
plus clair. Ouais, bon, déjà, il y a des petites fiches de personnages au début qui déjà nous mettent un petit peu pour bien savoir qui fait quoi. Il y a de
Parce que
nouveaux personnages qui apparaissent, de nouveaux personnages secondaires, on va dire.
bon, Fred, voilà, c'est le. Bah, ça va en même
Parle dans ton
temps.
micro.
Je m'entends super fort dans mon micro déjà.
Ah oui. Donc oui, Fred, c'est le.
Fred, voilà, c'est toi en fait. C'est le mec qui est fan de tous les trucs technologiques.
C'est moi, d'accord. Et toi, tu es qui?
Moi, en fait, j'ai pas réussi à me trouver.
Ouais.
Parce qu'en fait, je crois que je suis moins geek que tous les exemples qu'on a là.
D'accord.
Par contre, ça, je l'ai pas compris, celle-là.
La page erreur 404?
Oui, la page erreur 404, enfin, l'erreur 404, ça va, mais
Ouais.
je me suis dit où. Tu vois, parce que du coup, veuillez tourner la page et réessayer. Je me suis dit, il doit y avoir une suite.
Ah, moi je me dis qu'il faut peut-être qu'on essaie d'aller voir si elle existe, parce que tu as l'adresse en haut. Il faudrait juste qu'on vérifie si cette page existe. On
Time
se fait un time
Warp.
warp? Time warp. Et oui, il y a une adresse à aller visiter. Et voilà, c'est un easter egg. Un easter egg dans la BD. Donc il suffit d'aller sur cette page, une petite surprise sympathique. qui vaut le coup de voir. Donc, c'est bourré de petites références, de blagues. Donc, tu as pas, à part les personnages un peu plus donnés, t'as pas trouvé trop d'évolution. Les gags, enfin, les gags sont peut-être un peu plus travaillés, non? Un peu plus originaux.
Bah, ils m'ont fait autant sourire que dans le premier, ou ouais. Enfin, peut-être un peu plus même d'ailleurs. Je sais pas, moi je me suis pas bien amusé. Point.
Par contre, un petit reproche que je ferais, c'est le côté actualité. Il y a des références à des événements d'actualité qui font que, bah, au bout d'un moment, c'est la BD, on pourra pas vraiment la relire. Parce que quand il y a des références au fait que l'iPhone soit que chez Orange, etc., c'est un peu un temps révolu.
Mais peut-être qu'il y aura toujours un truc à dire sur l'iPhone, hein. Même le iPhone 28.
Oui, non, je pense qu'il y aura toujours un truc à dire sur iPhone, sur Apple, sur Steve Jobs. Voilà.
Steve Jobs.
Je vous invite à écouter le podcast Le Rendez-vous Tech pour ça. Je mettrai un lien. Vous aurez toutes les news tech de la mort. Bref, le dessin, toujours aussi sympa, je trouve. J'ai juste un peu de mal un peu avec la façon dont il fait les mains. Je trouve que ses doigts super carrés, des fois, me choquent un peu.
Moi, tu chipotes.
Oui, je chipote, mais il faut bien chipoter un peu. Tu vois, on peut pas dire toujours que du bien, quoi. Puis tu sais, moi, dire du bien d'une BD de gag depuis Gaston Lagaffe, j'ai du mal, quoi. Voilà, ça me prend sur moi, quoi. Bon, bref, tu es en train de relire tous les gags de l'album. C'est pour ça que je te sens super concerné et concentré.
Non, je suis en train de me poser la question. Est-ce que dans le linguistique, en fait, est-ce qu'ils sont vraiment en train de parler, bon, en elfique, certes, mais en quelle langue elfique?
Quelle langue? Le haut sindarin ou le bas sindarin?
Moi, je pense que quand il utilise ça, il faut être précis quand même.
Oui, c'est vrai. Vous l'aurez compris, c'est bourré de références super sympathiques. C'est la petite BD sympa à lire. Moi, je vais continuer à les acheter petit à petit parce que ça me plaît. On passe à quelque chose d'un peu plus velu avec Ikigami, tome 3.
Et là, on se pose toujours la question... Est-ce qu'il s'est sorti les doigts ou pas?
Est-ce que le fonctionnaire, qui est chargé de donner les préavis de mort aux gens, s'est sorti les doigts et va enfin faire quelque chose?
De sa vie.
Enfin, une réaction, quoi. Parce que de sa vie, on s'en fiche un peu. Est-ce qu'il va y avoir une réaction face au système qui n'est pas vraiment parfait, on peut le dire?
Révolution!
Nous avons donc deux histoires, comme d'habitude, dans tous les tomes d'Ikigami. Que nous comptent ces histoires?
Alors, on a une première histoire qui est en fait une conseillère municipale qui veut devenir maire ou qui veut se faire élire. On sait pas trop pour quel type d'élection, mais elle est donc en campagne. Elle est aidée de son mari et elle est elle est donc.
Le chat ne peut pas parler dans le micro. Il est nul. Allez, parle. Il parle tout le temps, mais pas là. Doudou. Bon, c'est pas grave.
Doudou. Ah, il marche. Et donc, du coup, elle est en pleine campagne et elle est à fond pour la loi, donc sur le progrès social. La loi, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, de sûreté, de...
Enfin, la loi, justement... La chercheuse nationale, c'est...
Voilà, la loi de l'ikigami, en fait. Elle est à fond là-dessus. Et son fils, par contre, elle ne s'en occupe pas du tout depuis ses précédentes élections. Le fils est complètement raté. Il a arrêté l'école à 14 ans. Ça fait 4 ans qu'il ne fout plus rien. Il vit dans un côté, porcherie.
On apprend aussi que dès qu'il avait un 17, c'était limite. Mais pourquoi t'as pas eu 19? T'es qu'une brêle.
Oui, enfin, visiblement, sa mère a des gros soucis relationnels. Oui. Et du coup, il reçoit l'ikigami. Et là, le père, lui, est catastrophé.
Et la mère veut l'utiliser politiquement.
Et la mère veut l'utiliser politiquement. Et donc le fils, pour la première fois de sa vie, a sa mère qui vient le voir et qui lui dit qu'elle est touchée, qu'elle est triste pour lui. Et lui, presque une petite lueur dans les yeux, presque, je vais avoir un contact physique avec ma mère, elle va m'aimer.
Elle m'aime, en fait.
Et en fait, non, en fait, c'est une connasse.
Ouais, c'est ça. On peut le dire. Et donc il va péter un peu un câble.
C'est une sale connasse opportuniste et du coup, il va péter un boulon.
Voilà, je crois que c'est assez bien résumé. Donc ça, c'est pour une des histoires. L'autre.
Alors là, l'autre, un accident de voiture. Les parents sont morts. Le frère et la sœur se retrouvent à se voir démerder un peu tout seuls. Ils sont en famille d'accueil. Sauf que la sœur a perdu la vue. Et donc le grand frère va tout faire pour essayer de vivre avec sa sœur. Donc il va essayer de se trouver un boulot. Il va faire des petites bêtises, quoi, hein, pour avoir de la thune. Et essayer justement donc d'avoir la possibilité d'avoir un appartement, de vivre avec elle. ce but qu'il arrive à atteindre donc là dernièrement, mais parce qu'il y a un mais, quand tout semble aller mieux, eh bien il va recevoir l'Ikigami.
Et donc le problème, c'est que sa sœur, s'il meurt, ne voudra pas revoir, en gros.
Oui, parce qu'en fait, elle peut retrouver la vue grâce à une greffe de cornée.
Et lui, vu qu'il va voir l'Ikigami, il a le droit d'avoir la dérogation pour donner sa cornée à sa sœur.
Ce qui, a priori, en plus, visiblement, il n'y a pas de contre-indication au niveau du système HLA. Voilà. C'est... Visiblement, il n'y a pas beaucoup de rejets, mais ça peut avoir des rejets, mais peut-être moins dans la famille. Donc, du coup, il voudrait lui donner sa cornée, mais sauf qu'elle, s'il meurt, elle ne veut pas recevoir la cornée. Voilà. Donc...
Et donc, il fait croire qu'il n'a pas eu l'Ikigami, avec l'aide du fonctionnaire qui est active dans cet épisode.
Ouais, enfin, il s'est bien fait tataner la gueule quand même avant d'être
ouais,
actif.
Enfin, il s'est fait tataner la gueule par le frère, parce qu'il a fait un peu une connerie, mais il est actif, il va contre sa hiérarchie, entre guillemets, il fait quelque chose d'illégal.
C'est vrai.
Et même dans l'épisode juste avant, on voit aussi qu'il commence à y avoir une sorte de...
Alors, excuse-moi, je te coupe, illégal.
Oui.
C'est pas illégal ce qu'il a fait, parce qu'il se fait taper sur les doigts, mais à aucun moment, administrativement, on lui dit « tu as fait quelque chose d'illégal ou c'est mal ce que tu as fait ?»
Oui, en gros, il aurait pas dû s'impliquer, quoi. Disons que ça se fait pas. Et dans l'épisode d'avant avec la politicienne, on voit aussi qu'il y a une sorte de mouvement de résistance politique qui est en train de se former contre l'Ikigami.
Ouais.
Donc, c'est en train de trouver de la consistance. Je trouve que l'univers est en train de prendre de la consistance, d'être moins manichéen. Plus réaliste, en fait, le fait qu'on découvre...
Tu as l'impression qu'il y a vraiment un contre-courant qui se crée, là.
Et dans la suite, on va peut-être voir les choses avancer, encore plus.
Peut-être que c'est avec la guerre civile.
En fait, ce qui est bien foutu, je trouve, c'est qu'il arrive à faire avancer son intrigue générale suffisamment pour qu'on se dise, dans le prochain, il va se passer un truc trop bien, et à chaque tome. Et les histoires qu'il y a dans chaque épisode sont suffisamment intéressantes pour, de toute façon, nous coincer.
Ouais.
Bref, Ikigami, j'ai beaucoup aimé.
Une série qui monte en puissance, comme Pluto il y a 15 jours.
Mmh.
Plus on avance, plus on rentre dans le truc. Quoi.
Bon, l'avantage par rapport à Pluto, enfin, plus par rapport à Pluto, celle-là n'est pas finie. Hein. Il y a le tome 7 qui vient de sortir, et il va y en avoir encore d'autres apparemment. On a un peu de retard, encore. Mais ce n'est rien comparé au retard que nous
accumulé
avons sur le
jeu.
Prochaine bande dessinée dont nous avons parlé, le fantastique, le magnifique... Walking Dead. Le tome 3, toujours par Robert Kirkman et Charlie Adler. Dans ce tome, notre petite troupe de héros
a quitté la ferme.
Oui, ils pensent avoir trouvé le refuge idéal.
Une prison.
Une prison. Il suffit de la nettoyer, en fait, et ils seront tranquilles. Et le truc, c'est que dans cette prison, ils retrouvent
quatre prisonniers
survivants, sans trop savoir ce qu'ils ont fait, pourquoi ils sont là, quelles sont leurs intentions, comment ça se fait que ce soit les seuls 4 survivants. Plein de petites questions bien intéressantes. Et bien sûr, la suspicion va commencer à arriver dans le groupe entre notre cher héros qui est prêt à faire confiance à tout le monde car nous sommes tous des survivants et nous sommes tous dans la même merde, et son épouse... pleine de réactions contradictoires de par ses hormones, qui a tendance à ne faire confiance à personne. Et donc encore moins à des criminels. C'est un épisode qui vaut encore son lot de surprises, son lot de tensions, de stress, son lot de morts aussi, il y en a un paquet encore.
Ben, il serait temps peut-être presque qu'il rajoute un petit peu des personnages, parce qu'on va finir par en manquer.
Ils en ont rajouté 4.
Oui, mais enfin, t'en rajoutes 4, ils en ont enlevé... Bon, je peux dire le nombre, combien ils en enlèvent dans l'épisode.
Allez, vas-y, dis combien il y a eu de morts.
En fait, ils en rajoutent 4, mais ils en enlèvent 1, 2, 3, 4. 4.
4, bah voilà.
Donc en fait, on reste toujours même. Ouais, enfin, mais en même temps.
C'est peut-être un calcul de Kirkman. Hein. Moi, je trouve que là, on est rentré, ça y est, on est dans la série. Il y a plus. Ce côté déjà vu qu'il y avait dans le premier tome. Il n'y a pas ce côté. Monter en puissance, on cherche à peu près où on va, comment s'organiser, qu'il y a dans le tome 2. Là, on est vraiment dans... Voilà de quoi parle cette série. Cette série parle de gens qui essayent de survivre dans un monde pourri et qui font ce qu'ils peuvent, et des relations entre des gens dans une situation complexe de survie. Et là, on est au cœur du sujet. C'est vraiment très très bien géré. On a en plus une fin de tome qui donne envie de se jeter sur le tome 4, ce que je ne saurais tarder à faire. c'est bon, quoi.
C'est bon, c'est très très bon. Mais c'est vrai que, bon, enfin, je dirais là on est au tome 3 seulement, mais il va peut-être falloir qu'ils arrêtent de nous finir les épisodes en nous les faisant à chaque fois partir d'un nouvel endroit.
Ouais, mais là ils partent pas à la fin de l'épisode.
Tu te retrouves quand même dans une situation que tu as déjà connue quelque part oui, un épisode avant.
Oui,
hein.
Oui, c'est vrai. Mais on verra comment ça va évoluer. Juste un petit truc à dire sur le côté éditorial. À la fin du tome, on a un superbe double page avec tous les personnages et ce qu'il y a à savoir dessus. C'est bien. Sauf que tout ce qu'on apprend en lisant la fin du tome, on vient de le lire, donc ça a un intérêt assez limité, je trouve. Il y avait une planche du même type dans le tome précédent, sauf que là, il l'avait mise en début et qu'elle nous révélait déjà qu'il allait crever. C'était un peu planté. Franchement, je crois que voilà, cette double planche-là, si elle était au début du tome 4, ça aurait été l'idéal. Ouais. Une sorte de petit résumé minute. Et ainsi de suite, quoi. Parce que c'est vrai que quand on réattaque la BD après une petite pause, même si elle a été courte en ce qui nous concerne, il y a une foison de personnages avec des relations plus ou moins complexes les uns avec les autres. On a tendance parfois à mélanger un peu, surtout les personnages féminins qui ont tendance parfois à se ressembler. Le trait de Charlie Adler manque parfois un peu de précision, même s'il est super efficace. Hein, je veux dire, au niveau de la narration, au niveau du stress qu'il arrive à foutre, ça marche très très bien. Mais le fait d'avoir ce noir et blanc, justement, fait que c'est pas forcément évident de différencier toujours les personnages. Et de savoir qui est qui déjà, qui fait quoi déjà. Surtout qu'un personnage qui était très secondaire dans le tome précédent va peut-être devenir plus important là, sortir de l'ombre, et va peut-être pas forcément se souvenir de ce qu'il avait fait avant, quoi, et d'où il vient.
Juste une chose, quand même, c'est que là, encore une fois, on tombe, dans les petits aléas des séries. Tu vois le film et tu te dis, putain, mais pourquoi ils font pas ça ? Là, ah, ils se retrouvent quand même dans une prison, ils trouvent 4 prisonniers.
Oui.
Le secteur qui est propre, c'est quand même le secteur administratif. Et il n'y a aucun des Pékins qui va pécho dans les dossiers des condamnés pour savoir pourquoi ils sont là.
Oh, c'est vrai ça, pourquoi ils n'ont pas fait ça ? Ben moi, tu vois, j'y ai pas pensé. Donc peut-être que non plus, en fait. Enfin, bon, là, ils étaient pleins, ils auraient au moins quoi, et puis y penser, effectivement.
Surtout parce que là, on leur dit oui, les canapés de l'administration, c'est là où on dort le mieux.
Voilà. Effectivement, c'est pas faux. C'est, voilà, tu aurais plombé le scénario. Si ça avait été un jeu de rôle. À noter que le 31 octobre dernier, le premier épisode de la série télé The Walking Dead est passé sur la chaîne américaine AMC. Un épisode réalisé par Frank Darabont, qu'on connaît surtout pour La Ligne Verte, qui était un film fort sympathique, et d'autres adaptations qu'il avait fait de Stephen King, c'est un peu sa spécialité. Et cet épisode a fait un carton, des millions de téléspectateurs, sachant que ça passe sur une chaîne câblée et que peu de gens avaient l'opportunité de le voir. Donc ce sera une première saison de 6 épisodes qui, paraît-il, est assez fidèle à la BD, même si elle arrive à s'en démarquer suffisamment pour conserver de l'intérêt. Et la deuxième saison est déjà commandée.
C'est cool, ça.
Bah, il y a eu du succès. Donc ça a l'air très très bien, et le peu de retours que j'en ai entendu, c'est que c'est une série télé excellente.
Un petit rajout quand même sur ce tome 3, c'est que à la fin vous avez donc des illustrations de couverture et il y a une petite illustration de Ryan Otley, le dessinateur de
Invincible
avec donc Invincible mais en version zombie.
Oui, qui est très sympa comme dessin, j'aime beaucoup Ryan Otley en plus. Voilà.
Qui est aussi scénarisé par Robert Kirkman, et on vous dit, eux aussi, vous proposent à découvrir absolument.
Oui, effectivement, on peut pas leur donner tort, ils font une petite publicité, mais ils ont raison, on peut pas leur donner tort, c'est à découvrir.
Ben
on
voilà.
va juste faire un peu... tiens, j'ai pas dit le prix, mais c'est comme les autres. C'est 13,50. Ikigami, c'était 7,95, tiens d'ailleurs. Et les geeks, 9,95€. Voilà, on a fait nos belles mares. Le meilleur du mieux, cette quinzaine.
Attends, faut que je retrouve. Alors, donc on a des zombies. On a un serial killer vachement vénère.
Voilà, des gens qui meurent. Un gars que tout le monde pense comme lui, des gens qui veulent faire un casse, et des geeks.
Omnivisibilis.
Tu mettrais Omnivisibilis en...
Ouais.
Ouais. Walking Dead.
Eh ben, écoute,
je mets The Walking Dead.
Voilà, c'est fait.
The Walking Dead, franchement, ça a atteint un bon niveau.
Bon, par contre, Baron Samedi va certainement devenir mon livre de chevet.
Oui, ok. Tu as tué des gens...
Non, c'est ma femme qui est contente.
Prochain podcast, j'amène un couteau que je cache au cas où tu fasses une réaction étrange.
Oh, tu sais, c'est un podcast de psychose.
Ouais. Petit hors-sujet.
Ouais, alors nous avons donc plusieurs thèmes aujourd'hui.
Voilà, et nous allons parler d'abord du thème le plus important, je pense, celui qui nous touche le plus profondément.
Voilà. Un thème spécial homme.
Oui, et femmes aussi, les femmes peuvent aussi apprécier. En tout cas, la mienne, c'est le cas.
La mienne aussi.
Ah. Et là, non. Les lecteurs se demandent de quoi on parle. Mais mon Dieu, mais de quoi vont-ils nous parler de pratiques étranges?
Attendez,
pas du tout.
Attendez, on est quand même dans un thème HS. On est vraiment...
Dans le hors-sujet.
Hors-sujet.
Ah, total.
Total. Et donc là, nous allons vous parler des drives de centres commerciaux. Les drives des grandes chaînes.
Ouais.
Vous faites vos courses sur Internet, vous allez avec votre petite voiture.
Vous passez grosse, juste, hein, si vous voulez aussi.
Aussi. Et vous passez juste votre bande de commande devant une borne et hop, on vous amène tout ça dans des sacs, on vous met dans la voiture et vous rentrez chez vous.
Et c'est fait. Et mieux, c'est pré-rangé.
Dans chaque sac, il y a chaque compartiment. Les fruits d'un côté, les conserves, les surgelés.
C'est pas le vrac qu'il y a quand on fait nos courses normales. Ça coûte pas plus cher, ça va plus vite et c'est pré-rangé. Bref, les drives, c'est bien. Mais on va peut-être passer à quelque chose qui intéressera un peu plus nos auditeurs. On va parler films, on va parler cinéma. Nous avons tous les deux vu un des films récemment sortis qui a beaucoup fait parler de lui. Moi, c'est le blockbuster du moment américain. Toi, c'est peut-être le blockbuster français du moment.
Moi, c'est le blockbuster français du moment. Chacun son truc. Hein.
Je vais commencer avec The Social Network de David Fincher, qu'on avait apprécié sur Seven, Fight Club, The Game. Et j'en passe quelques autres.
The Game, il faudrait que je le revoie.
Oh, il est bien, The Game.
Il est bien, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu.
Donc, The Social Network est le film qui raconte, en gros... Pour simplifier vraiment,
Facebook.
Comment Mark Zuckerberg a fondé Facebook.
J'aime.
Tu aimes? Ok, cool. Donc je vous rappelle l'adresse de Facebook, facebook.com/oneaiclub, comme tout le monde le connaît.
Attends, je t'envoie un kiss.
Ah, trop bien.
Une boule de neige.
Oh là là, mon Dieu. C'est tous les trucs que je déteste en Facebook au niveau pratique. Donc... Il y a un parti pris très intéressant. Déjà, c'est un film un peu film procès, c'est-à-dire qu'en gros, on va avoir du flashback avec ce que racontent Mark Zuckerberg a eu plusieurs procès sur lui. En fait, c'est les arrangements à l'amiable qu'ils sont en train d'essayer de faire. Et on voit, pendant qu'ils sont en train de créer ces arrangements à l'amiable, comment il en est arrivé là. Mais en fait, ce n'est pas un film sur Facebook, ce n'est pas un film sur Internet. C'est un film sur un gars qui a des problèmes sociaux, des gros problèmes sociaux, et qui essaye de recréer ce qu'il n'arrive pas à avoir.
Des amis.
C'est un peu ça. Puis qui, à la base, est en train de juste créer un site pour niquer. Parce que Facebook, à la base, c'était quand même exclusivement sur les universités. Bref, on voit comment il évolue, on voit comment il rentre, ce que j'ignorais, un peu sous la houlette du gourou d'Internet, qui est le créateur de Napster, qui a des parts dans Facebook à l'heure actuelle et qui lui en met plein la vue en disant: il y a mieux qu'un million de dollars, c'est un milliard de dollars. Enfin, avec des phrases à la con comme ça. Un film très sympa qui va plus loin, je trouve, que de dire juste l'histoire de Facebook. Vous trouverez des milliers de critiques vachement mieux que les miennes dessus. Que la mienne dessus. Ça vaut le coup. Une seule truc que j'ai noté qui m'a vachement fait plaisir, c'est assez crédible. Mark Zuckerberg, quand il va sur Internet et qu'il écrit dans son live journal, il utilise du code HTML et en plus, il est sous Linux. Ouais, ah ouais, voilà. Oui, tu es en train de me montrer le tome des geeks. Oui, bah ça va, hein. Parle-nous plutôt de ton truc à toi qui n'a rien à voir avec les geeks.
En fait, c'est un petit peu pareil. Hein, les petits mouchoirs, donc voilà, le gros truc de Guillaume Canet, tout le monde en parle. Il y en a qui disent que c'est à chier, il y en a qui disent « Oh, c'est trop bien !»
Je ne l'ai pas vu, mais alors c'est vrai que les avis sont controversés au possible. Ça me donne envie.
Mais justement, je trouve que je crois que c'est la discussion qu'on avait eue sur Tabouret.
Oui,
voilà, que
le trop grand vide d'Alphonse Tabouret.
Que disons que tout le monde pouvait y trouver son compte, quoi. Ça peut vous plaire, ça peut ne pas vous plaire. Mais je pense que pour des personnes qui ont un cercle d'amis avec lequel ils font pas mal de trucs, c'est un film qui peut vous parler.
Hein?
Non, ouais.
tu es trop vague. De quoi ça parle déjà? Je sais même pas ce qu'il raconte. En fait, j'ai même pas vu la bande annonce.
C'est juste, voilà, c'est des amis qui partent tous les ans en vacances ensemble. Ouais. L'un d'entre eux a un accident de scooter et ils partent quand même. Et ça va jouer sur tout ce qu'on se dit pas entre amis ou tout ce qu'on ose se dire et qui du coup fait que parfois on regrette de l'avoir dit. Enfin voilà, c'est tout ce qu'on peut avoir dans une relation d'amitié entre adultes. Et c'est quelque chose, voilà, moi, ça m'a vraiment parlé.
Il y a une intrigue suivie ou c'est juste axé sur les relations entre les personnages? Il y
C'est
a un
leur.
fil conducteur
Non.
ou non? Ah, que dalle, ok.
Enfin, pour moi, j'ai pas trouvé. Enfin,
Oui, c'est pour ça que les gens n'ont pas forcément accroché, c'est qu'ils savent pas trop ce que ça raconte en fait.
Bah si, tu suis leur vie, quoi. Tu suis leur vie, tu suis leur état d'âme, tu vas rire quand il faut
Ouais, enfin, il
rire.
n'y a pas de MacGuffin, quoi. Il n'y a pas de MacGuffin. C'est le terme technique de scénariste que je viens de te balancer dans les dents.
Putain, mais t'arrêtes de faire ton. Tiens, mais mange-le ton truc
Le
là.
MacGuffin, c'est le truc que les gens convoitent dans un scénario. En gros, c'est Hitchcock qui avait inventé ça.
Non. Non, ils convoitent
C'est.
rien là.
Voilà, donc. Bah, très bien.
En fait, s'ils convoitent, si, juste une chose, c'est d'être heureux de rester dans le statu quo, quoi.
Il joue dedans, Guillaume Canet, ou il est
Non.
juste réalisateur, là?
Non. Attends, Ah non, je l'ai pas vu.
Ok. Les acteurs français,
Les
sympa, bien.
acteurs. Bah écoute, franchement bien. Joël Dulpuche,
Oui.
qui joue un des personnages. Je sais pas s'il a fait d'autres films avant, mais le mec, il est charismatique, je trouve.
Ouais, il t'a. Il...
Il m'a séché. Mais voilà, sinon, tout le monde joue vraiment. Je trouve ça léger, voilà. Moi, j'ai vraiment rigolé quand il fallait rigoler. Je pense que voilà, j'étais à deux doigts de verser ma petite larme quand il fallait la verser. Et puis, j'ai pas vu passer les 2h40.
Ah ouais. Ah ouais, quand même.
Ouais.
2h40.
Mais je les ai
Bon,
vraiment
bah,
pas vus passer.
faudra que j'essaye d'aller le voir, car tu m'intrigues beaucoup. Eh bien, on a fini avec cette émission. On se retrouve dans 15 jours, avec déjà, on peut vous annoncer, on va parler de la Brigade Chimérique et du dernier, troisième testament, Julius, qui est la suite de ce dont on a parlé il y a 15 jours. C'est compliqué tout ça. Les derniers de la Brigade Chimérique, je peux déjà vous le dire, c'est bien, c'est trop bien. Mais Thio l'a pas encore lu, donc voilà. Hein. Il préfère casser des murs. Bon.
Et donc, sinon, Sauvage, un jour, parce que tu vois,
Ah oui, tu regardes un peu les trucs
voilà,
reportés.
oui, alors en fait, parce que sur nos feuilles, à chaque fois, on a une case en bas, c'est reporté, c'est-à-dire en fait, tout ce qu'on glisse dedans et qu'on remet d'émission en émission, et on a toujours donc Sauvage et la collection Exlibris de
Ouais.
chez Delcourt, et Spirou et Fantasio que tu as rajouté,
Oui,
hein,
on a
voilà,
rajouté. Et non, mais il va falloir aussi qu'on parle à un de ces quatre de tous les Star Wars qui traînent. Faudra qu'on fasse le côté obscur du podcast ou un truc dans le
ouais,
genre,
mais
parce
il
que
faut
j'en ai
que.
lu quelques-uns déjà.
Ah, c'est bien.
Un paquet. Enfin bon.
Voilà, hein, il faudra quand même que tu me les. Hein?
Oh, ça va, hein.
Parce que du coup, Sauvage, tu vois, je vois toujours pas ton P devant pour dire que tu l'as lu.
J'ai lu le quart. Mais j'ai trop de choses à lire, c'est trop dur. Bref, les auditeurs s'en foutent un peu de toute cette histoire, hein. L'important, c'est qu'on parle de BD, qu'on en parle bien. Enfin, j'espère en tout cas. Vous pouvez donc venir sur notre blog, blog.jeudepied.org. J'ai peut-être réussi à acheter le domaine lavoixdesbulles.fr. Voilà, sur lequel trouver le podcast avec une adresse un peu plus facile à retenir. Mais bon, c'est pas encore fait. Donc, un jour, une émission normale. Dans un mois, on fête nos 1 an. On fera une petite émission de Noël aussi.
Pas que c'est un peu égocentré quand même la voix des bulles.
Ouais, tu préférerais les voix des bulles?
Non parce que la voix ça veut dire en fait tu vois, déjà le premier podcast c'était One Eye Club tu vois
Ouais.
c'était ton
Non, mais
truc
il y a un progrès déjà, tu vois.
et là tu vois
Ouais.
c'est la voix des bulles c'est la tienne toujours quoi tu
Non, c'est la voix.
ouais c'est
Donc, la
ça
voix, ça peut être la tienne ou la mienne, car nous ne parlons que d'une seule voix. C'est beau l'amitié. Et sur ce, nous allons vous
yes
laisser, vous dire au
ouh ouais
revoir.
on va se laisser comme ça allez
Ciao.
ciao.
Des têtes bizarres devant le micro. Le prochain podcast, on peut filmer, je veux dire.